Vous écoutez
RMC.
8h passées de 1 minute. Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La tournée de Patrick Bruel prévue cet été en France aura-t-elle lieu comme prévu? Vous verrez que c'est pas sûr du tout. RMC a interrogé les organisateurs de plusieurs dates. Il y a de l'embarras, conséquence des accusations de violences sexuelles. 3 concerts sont d'ores et déjà annulés au Canada. On va vous raconter dans le journal les coulisses de la venue de Donald Trump en France. Le mois prochain, il va participer au G7. Confirmation cette nuit, tout a été fait pour qu'il soit là. Et on ira à Londres au lendemain du sacre d'Arsenal en football, champion d'Angleterre pour la première fois depuis 22 ans. Et ça tombe à 10 jours aussi de la finale de Ligue des Champions contre Paris.
C'est donc au Canada que 3 concerts de Patrick Bruel ont été annulés.
Conséquence des accusations de violences sexuelles que conteste le chanteur. Mais dans ce contexte, 3 concerts qui étaient prévus en décembre sont d'ores et déjà annulés dans la ville de Québec. Alors Patrick Bruel reste programmé chez nous en France, dans une quarantaine de villes, pour une tournée qui va commencer à la mi-juin. Avec quand même un point d'interrogation. Inès Zegloul, vous avez interrogé pour RMC des organisateurs de plusieurs dates du chanteur. Et vous avez senti chez certains de l'embarras à l'idée de l'accueillir pour qu'il se produise sur scène.
Et exemple à Saverne dans le Bas-Rhin, le 18 juillet, le chanteur doit monter sur la scène du festival Les Alpagas Bleus, programmé depuis des mois et désormais, eh bien, on est pieds et poings liés. Voilà ce que me confie Sophie, la responsable communication de l'événement.
Le plus simple, ce serait de déprogrammer. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui il existait une clause dans les contrats qui dit que dans ce genre de situation, on peut, oui, humainement, probablement qu'on l'aurait fait. Aujourd'hui, si on déprogramme, il faudra payer l'artiste et qu'en plus, il faut rembourser tous les gens qui voudront ne plus venir financièrement. Oui, c'est la remise en question de l'existence du festival même, quoi.
Alors, ils ont beau avoir retourné le problème dans tous les sens, seule solution, nous dit Sophie.
Qu'ils prennent la parole et qu'ils prennent ses responsabilités. Qu'ils lui annulent, je pense que ce sera plus simple pour tous les festivals, évidemment, oui, financièrement, oui, c'est sûr.
Alors, on l'entend, Inès Zegloul, il y a des collectifs féministes qui appellent les élus locaux à prendre là des décisions.
Oui, mais parmi les maires que j'ai pu joindre, aucun ne s'oppose frontalement à la venue du chanteur à Dijon ou encore à Laval. On prône la liberté de programmation, laissons faire la justice, présomption d'innocence, me répond-on à Vaison-la-Romaine ou encore à Salon de Provence. Eux renvoient la balle aux producteurs de spectacles qui avouent, eux, n'avoir jamais pensé à annuler les dates. Alors, les collectifs se mobilisent. Salon féministe, par exemple, dont Mathilde en est membre.
On ne veut pas divulguer les détails, mais on planifie des choses. Et puis, dès vraiment, c'est de perturber, de dire qu'on est là, continuer avec cette programmation. C'est indécent.
Alors, seule décision en date en France, celle d'un sponsor près de Nice, un centre commercial local, partenaire du Beach Sport Festival qui s'est retiré de l'événement.
C'était le choix de la rédaction ce matin, signé Inès Zegloul pour RMC. On est à 1 an de l'élection présidentielle et Édouard Philippe prend acte des soupçons de détournement de fonds publics qui pèsent contre lui. Dans le cadre d'une enquête ouverte en 2024, on sait depuis hier qu'un juge d'instruction va se pencher sur ces soupçons autour donc d'un contrat entre la ville du Havre, dont il est le maire, et une animation numérique, contrat qu'aurait profité à une proche d'Édouard Philippe. Thomas Becker, du service politique à RMC, ce sont des faits qu'il conteste depuis le début, mais bon, ça tombe mal.
Oui, Édouard Philippe précise qu'il répondra à toutes les questions que posera la justice de façon très sereine. En toute sobriété, ça lui ressemble, glisse un de ses proches. Le favori du bloc central dans les sondages applique sa méthode, son style, ne rien laisser paraître, tracer sa route. Sauf qu'Édouard Philippe vient tout juste d'annoncer un grand meeting début juillet, censé marquer le début de sa dynamique vers l'Élysée. Alors forcément, son entourage en pleine opération, mobilisation, tente de déminer. Ce n'est qu'une poursuite automatique de la procédure. Sur le fond, il n'y a rien, affirme un cadre d'Horizon, un des membres de son équipe de campagne résume le triptyque qu'il anime, sérénité, calme, concentration. C'est avec ce caractère, assure-t-il, qu'Édouard Philippe avait déjà affronté la justice. Placé sous le statut de témoin assisté dans une enquête sur la gestion du Covid, il avait finalement bénéficié d'un non-lieu.
Bon, vous avez entendu le Premier ministre Sébastien Lecornu. Hier, il nous a dit qu'il fallait s'habituer aux guerres hybrides comme celle au Moyen-Orient parce que ça va durer. Sébastien Lecornu dit ça à la veille, demain, donc, de faire des annonces pour les secteurs les plus touchés par la crise et notamment par la flambée des carburants. Donald Trump lui fait encore du Donald Trump ce matin en fixant un nouvel ultimatum à l'Iran qui a jusqu'à vendredi, samedi ou dimanche pour débloquer le détroit d'Ormuz. Bon, tout ça n'est pas précis du tout. Il les repousse toujours depuis le début de la guerre. Ce qui lui vaut d'ailleurs des moqueries aux États-Unis. Et alors, c'est dans ce contexte géopolitique que Donald Trump va venir en France le mois prochain. La Maison-Blanche a confirmé dans la nuit sa participation au G7 qui se déroulera à Évian-les-Bains. Il y avait un doute, Romain Houck, jusqu'à cette nuit. Donc, c'était pas sûr qu'il fasse le déplacement. Et tout a été fait d'ailleurs pour qu'il soit là.
Oui, Emmanuel Macron le supplie d'y aller. C'est ce qu'affirmait il y a deux semaines un haut responsable de l'administration américaine. Les dates de ce G7 ont donc été décalées rien que pour lui. Le sommet devait commencer le 14 juin, mais Donald Trump n'est pas disponible. Pourquoi ? Eh bien, c'est son anniversaire, 80 ans. Le président américain compte bien le fêter en grande pompe à la Maison Blanche avec carrément une grande soirée de combat MMA organisée dans les jardins. Bref, Donald Trump a d'autres choses à faire. Le G7 commencera donc le lendemain. Et là, l'ambiance sera sûrement un peu moins à la fête. Les relations entre Donald Trump et les autres pays du G7 sont détériorées ces derniers mois sur fond de droits de douane et de guerre en Iran. Donald Trump ne manquant jamais une occasion pour tacler ses partenaires européens sur le plan commercial, militaire ou diplomatique.
Et alors la venue du président américain à un sommet comme ça du G7, c'est un événement évidemment, ça s'accompagne d'une sécurité monumental et c'est même pas exagéré de dire ça.
Oui, il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2019 à Biarritz. C'est le dernier G7 organisé en France. Donald Trump était déjà présent pour sécuriser l'événement. Toute une partie de la ville complètement bouclée, armée mobilisée et 13 200 policiers et gendarmes engagés. Trois matchs de Ligue 1 avaient même été reportés pour libérer des effectifs. À Évian, dans un mois, ce sera la même chose. Une vaste zone ne sera accessible que sur présentation d'un pass G7. Certains établissements scolaires fermés, des lycéens vont même devoir passer des épreuves du bac dans une ville voisine, mais aussi des lignes de train suspendues, une zone d'exclusion sur le lac Léman et même le scellage de toutes les bouches d'égout.
Alors pendant ce temps, c'est à Pékin que se déroulait cette nuit un nouveau sommet entre puissants, Xi Jinping qui recevait Vladimir Poutine avec le même cérémonial que pour Donald Trump il y a une semaine. La Russie voulait en fait s'assurer que la Chine n'était pas en train de la lâcher pour les États-Unis. On se demande ce matin comment vont les supporters d'Arsenal en football. Ils ont explosé de joie hier soir en remportant le championnat d'Angleterre. Vous entendez là, ça faisait 22 ans que les Gunners, c'est leur surnom, attendaient ça. Ils ont profité en fait du match nul de leur rival Manchester City hier soir pour être sacrés. Clément Brossard, vous êtes à Londres en direct ce matin pour RMC envoyé spécial. Et ils ne pouvaient pas rêver mieux les Anglais pour préparer la finale de la Ligue des Champions contre Paris dans 10 jours.
Oui, Quentin, l'exploit est retentissant. Il fait la une de la presse anglaise ce matin. Les fans d'Arsenal peignent le nord de Londres en rouge, écrit le Daily Mail. Ils étaient des milliers à célébrer le titre devant l'Emirates Stadium jusqu'à tard dans la nuit. Klaxons, fumigènes, feux d'artifice, beaucoup de pleurs. Aussi fini l'étiquette de loser qui leur a souvent été collée dessus. Ils ont chanté à la gloire de leurs joueurs, de leur entraîneur aussi, Mikel Arteta, ancien joueur d'un PSG qu'il retrouvera dans 10 jours pour la finale de Ligue des Champions à Budapest. Il va pouvoir ce week-end, pour la dernière journée de championnat, mettre à l'abri des blessures ses cadres, préparer avec sérénité ce dernier rendez-vous de la saison. On veut écrire l'histoire, disaient les fans hier soir, faire le doublé, gagner notre première Ligue des Champions. Un vent de confiance va donc entraîner Arsenal jusqu'à Budapest, où le PSG affrontera une équipe soulagée d'un poids énorme et prête à rendre cette saison encore plus inoubliable qu'elle ne l'est déjà.
Clément Brossard en direct de Londres ce matin pour RMC. Tiens, il y aura la première finale européenne de la saison ce soir, celle de la Ligue Europa entre les Allemands de Fribourg et les Anglais d'Aston Villa. C'est la sixième finale quand même dans cette compétition pour l'entraîneur espagnol Unai Emery. Il en a fait une spécialité et il l'a déjà remporté 4 fois.
Et c'est l'heure de l'économie. Merci pour ce journal, Quentin Vinet. Manu Le Chypre est rentré dans le studio.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, c'est un beau succès pour l'industrie de l'armement française. Pour une fois qu'on peut dire cocorico, la Suède va acheter 4 frégates à Naval Group.
Oui, un contrat estimé à 4 milliards d'euros sur un marché de l'armement en pleine ébullition dans un monde qui se réarme. Le cas de la Suède est emblématique, hein. C'est le plus gros investissement militaire depuis les années 1980 pour la Suède. Ce marché en pleine croissance est aussi un marché hyper concurrentiel puisque Naval Group a essuyé récemment plusieurs revers. Rien qu'au cours des derniers mois, la Norvège a retenu l'offre britannique pour ses frégates au détriment du français. Le Canada n'avait pas voulu de ses sous-marins non plus. Les Polonais avaient choisi un sous-marin suédois, mais Naval Group a donc réussi à vendre aussi ses sous-marins aux Pays-Bas et à l'Indonésie. Naval Group avait enregistré en 2025 un niveau record de prise de commande. 2026 sera aussi une année faste pour l'entreprise et ses 17 000 salariés.
L'armement, aujourd'hui,
aujourd'hui, c'est finalement le gros point fort de l'industrie française.
Ah bah c'est le secteur dans lequel la France est le plus compétitif aujourd'hui, avec peut-être le luxe et les vins spiritueux. 4000 entreprises tirées par une quinzaine de grands groupes, hein, dont Dassault Aviation, Thales, Safran, Naval Group, MBDA, deuxième exportateur mondial d'armement derrière les États-Unis, présent sur tous les segments du marché, des avions aux sous-marins et tous leurs armements et équipements électroniques. Le principal défi de l'industrie de la défense française, c'est de répondre à une demande en plein boom, et y compris une demande de la France elle-même, puisque l'actualisation de la loi de programmation militaire adoptée hier par les députés porte ses dépenses militaires à 436 milliards d'euros d'ici 2030. C'est 36 milliards d'euros de plus qu'initialement prévu.
Emmanuel, comme tous les jours sur RMC, les chiffres du jour, ça monte ou ça descend?
Bah, ça monte, hein, quand vous avez le pétrole qui reste au-dessus de 110 dollars le baril depuis le début de la semaine. Le gazole reprend 5 centimes par rapport à la semaine dernière, 2,16 €. Le sans-plomb 95 continue à aligner les centimes en plus au fil des jours. On est à 2,05 €. Le pétrole toujours tendu, donc, et puis le gaz toujours sur une trajectoire ascendante depuis deux semaines.
Ah bah, dis donc, je poserai la question tout à l'heure à Bruno Le Maire, de savoir si on n'est pas quand même, franchement, à un moment, faut peut-être le dire, dans ce vrai choc pétrolier que tout le monde redoute de nommer. Il est 8h12.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et on vous a parlé de cet hôpital qui craque ce matin, mais c'est aussi vous qui nous en parlez à travers vos messages.
Oui, c'est de votre expérience dont vous parlez, de longs messages, des récits que vous nous faites sur votre expérience avec l'hôpital public. Je pense à Frédéric qui nous dit: j'ai failli perdre la vie après un passage aux urgences 2015, pas de diagnostic posé, retour aux urgences une semaine après, opération en urgence suite catastrophique, prise en charge tardive. Voilà ce que nous dit Frédéric de son expérience à l'hôpital. Je paraphrase un peu parce que vous racontez votre expérience. Comme Hervé, dont l'ex-femme venait d'accoucher deux mois après des douleurs. On lui a expliqué que c'était les suites de l'accouchement, les restes de la péridurale. Elle y retournait trois fois. La quatrième, je l'ai accompagnée, j'ai tapé du poing sur la table et le chirurgien a expliqué que sa vésicule biliaire était sur le point d'exploser, sous diagnostic qui revient souvent dans vos messages ce matin, comme Alexis qui dit que sa mère est arrivée aux urgences avec un mot de son médecin qui indiquait qu'elle faisait un AVC. Ils l'ont laissée repartir chez elle. On est ressorti le lendemain. Eh bien, elle a des problèmes aux yeux aujourd'hui, des suites, des conséquences de cet AVC mal diagnostiqué. Voilà ce que nous écrit Alexis sur le WhatsApp RMC.
Vos messages, vous continuez évidemment à nous écrire. Dans un instant, Arnaud Demange débarque pour nous faire rire. Le face-à-face, ce sera Bruno Le Maire. Et juste après, face à Canteloup, comme tous les jours, 8h50, Nicolas Canteloup sera en direct sur RMC. 8h14, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 sur RMC pour notre plus grand plaisir. Arnaud Demange est avec nous. Salut Arnaud.
Oui, bonjour Apolline Matin.
Oui, bonjour.
Bonjour toute l'équipe d'Apolline Matin.
Bonjour,
ça va bien? Ce matin, j'ai envie de vous faire rêver. J'ai envie de vous vendre du rêve. Alors je vous emmène dans les paillettes du Festival de Cannes. Car le maire David Lisnard a demandé à la police cannoise d'accentuer la lutte contre le trafic de drogue. Et ça, c'est inhumain, Apolline. C'est pas bien. Interdire la drogue à Cannes pendant le festival, c'est horrible. J'en ai parlé à Dominique Besnéard.
Bien sûr.
Il m'a dit, ça va plus être pareil. Si vous regardez à jeun un film polonais de 3 heures en noir et blanc sur un schizophrène hermaphrodite en milieu rural pendant l'occupation russe, à jeun, c'est pas le même plaisir du tout. En fait, ça paraît plus long. Essayez-vous, hein. Essayez de regarder un film des frères Dardenne. Vous savez, les réalisateurs qui arrivent à rendre la Belgique encore plus déprimante qu'elle l'est déjà. Vous vous rendez compte, un producteur français qui prend pas de drogue, mais il va lire les scénarios. C'est pas possible. Il n'y a plus aucun film qui va sortir. Sinon, il y a toujours l'affaire de la tribune anti-Bolloré. Les signataires sont toujours dans le viseur de Canal et ils sont tous à Cannes. Et Charles Laloncle, le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, est toujours caché dans les buissons pour mener l'enquête. Pascal, eh ben Jean-Pascal Zadi, eh ben il a signé la pétition et il a dit que Vincent Bolloré, eh ben il était méchant. Mais quelle ingratitude! Vincent Bolloré qui a financé son film sur des cosmonautes noirs et il crache dans la soupe. En plus, on avait adoré le scénario. Des noirs qui partent en fusée dans l'espace et qui reviennent pas. On avait trouvé ça formidable. On voulait même financer l'épisode 2, 3, 4, 5, 6. C'était une excellente idée.
Et même que,
calmez-vous, Charles.
Et même que Artus, eh ben, Artus, il a une jupe. Vous avez vu les photos? Il a une jupe, comme une fille.
mais en barbu. Et du coup, je savais même plus s'il fallait être excité ou dégoûté.
Oh non.
Et voilà. Mais est-ce que Vincent Bolloré porte des jupes ou des robes? Non. Bon, sauf pendant les vêpres au monastère de la Sainte Inquisition, mais c'est particulier. Ça n'est pas à Vincent de payer les jupes d'Artus.
Oui, vous avez raison, Pascal. Le maître ne doit pas payer. Non, non, il faut protéger le précieux argent de Canal+. Il faut tuer le cinéma français. Juliette Binoche, il faut la tuer, comme sa carrière. Tue-la. Et sauve le précieux.
Arnaud, face au virus Ebola, l'OMS déclare l'urgence internationale.
Oui, cette semaine, allez, on change de maladie. Et le gagnant est... le virus Ebola. Le virus Ebola qu'on avait pu admirer en 2014, un virus qui avait connu un pic de popularité en Europe, mais qui vite retombé, mais qui poursuit une belle carrière en Afrique. On écoute Ebola.
J'aimerais remercier mon agent infectieux, ma famille d'adoption. Bon, ils sont tous morts, mais ils ont fait beaucoup pour moi quand même. Voilà, le hantavirus, c'est déjà has-been.
Bien sûr.
Rendez-vous compte que Sanofi a même pas eu le temps de développer un vaccin.
C'est fou.
En même temps, ils en ont toujours pas trouvé un contre le Covid. Alors, par contre, pour Ebola, ils avaient le temps.
Oui.
C'est juste que c'est pas rentable.
Ah oui.
C'est l'Afrique. Et vous savez ce qu'on dit. En Afrique, ils ont pas de montre, mais ils ont le temps d'attendre un vaccin Sanofi. Ils ont du temps. Ils ont du temps devant eux.
BFM Business a publié un article. Faut-il investir dans une vache?
Oui, Apolline, voilà une bonne question que vous pourrez poser à Bruno Le Maire dans un instant.
Oui.
Vache ou pas vache? Alors, le site My Margaret propose à des épargnants d'investir dans des vaches laitières et ça rapporte 5% 89 d'intérêt. C'est ce qu'on appelle une vache à lait.
Ouh.
Ah là là. Alors, le prix d'une bête, c'est actuellement 2 316 euros. Et voyons ce qu'on en dit à BFM Business où on retrouve Edwige Chevrillon et Emmanuel Le Chypre.
Banquier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler investissement, crévin-lieu. Car on peut investir dans les vaches, n'est-ce pas, Emmanuel Le Chypre?
Tout à fait, Edwige. Alors, est-ce un bon placement?
Mais oui, c'est un bon placement, Chouminou. Et tu sais quoi?
Chouminou.
Je l'ai fait, Crémildiou. J'ai investi dans une vache, tu te rends compte? C'est quasiment 6% de rendement. Avec cet investissement, on pourra enfin se... Emmanuel, c'est quoi cette tache sur ta cravate?
C'est rien, Moumoune.
Ne me dis pas que t'as déjà mangé ma vache.
Désolé. Visiblement, j'ai un peu bouffé nos économies. Mais rassure-toi, on a eu la même idée. Moi aussi, j'ai investi. Regarde, je l'ai appelée Angela.
Oh, cachotier, t'as fait pareil que moi. On est vraiment fait l'un pour l'autre. Emmanuel, si tu me rejoignais dans le foin...
Oh non.
Oh, Edwige. Vous voyez, l'amour est dans le pré à taux zéro.
Oh, Choubinou, si on donnait à Bruno Le Maire qui nous écoute en loge sa prochaine idée de roman hot.
Oh oui.
Oh là là, oh que de chaleur.
Oh.
Allez, à demain et bonne interview de Bruno Le Maire.
Oui, bah bien sûr, là, c'est ouf. Allez, c'était Arnaud Demanche qu'on retrouve tous les jours en podcast ou en tournée.
Oui.
Il sera à Aix-en-Provence, à Nice, à Chambéry, à Saint-Riquier, au Garric, à Gaillac, à Morières, les Avignons ou à Reims.
Toute la campagne.
RMC, ça ressemble à une campagne politique. Il est 8h21 dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Une tournée toujours maintenue, mais amputée désormais de 3 concerts. Québec a annoncé hier soir annuler la venue de Patrick Bruel, compte tenu du contexte, disent les organisateurs, référence aux 12 plaintes en France déposées pour viol et agression sexuelle qui ciblent le chanteur. L'entourage d'Édouard Philippe assure qu'il répondra aux enquêteurs avec sérénité. Le parquet national financier a désigné un juge d'instruction hier pour mener les investigations sur des soupçons de détournement de fonds. fonds publics et de favoritisme impliquant l'ancien Premier ministre. Donald Trump sera bien présent au prochain sommet du G7 en France. Il est prévu à Évian-les-Bains du 15 au 17 juin, annonce de la Maison Blanche cette nuit. L'ambiance s'y annonce tendue après l'épisode des hausses de droits de douane. Justement, les eurodéputés et l'Union européenne ont trouvé un arrangement cette nuit pour mettre en œuvre le dernier accord commercial voulu par Donald Trump. En résumé, l'Europe accepte de faire des concessions pour limiter les surtaxes américaines à 15%. De premières mesures de précaution contre Ebola à Mayotte, le gouvernement français a mis en alerte les autorités sanitaires. L'hôpital local est aussi sommé de se préparer à accueillir d'éventuels cas de la maladie, maladie qui sévit surtout en ce moment en République démocratique du Congo. Le foot est une info qui va vous intéresser, supporters parisiens. Premier titre de champion d'Angleterre pour Arsenal depuis 22 ans. Les Londoniens ont bénéficié du match nul de leur dauphin Manchester City et arriveront gonflés à bloc contre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions le 30 mai prochain. Et puis la météo, journée de transition aujourd'hui, mais matinée très nuageuse, de la pluie en allant vers la Manche et les frontières du Nord. Des éclaircies vont ensuite gagner quasiment tout le pays. Côté température, elle remonte. 17 à Brest, 19 à Rouen, 21 à Paris, 23 à Clermont, 26 à Montpellier et 28 à Perpignan.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité, c'est Bruno Le Maire. Et franchement, la France va pas au top. Retour de l'inflation, chômage qui remonte et croissance en berne. Qu'est devenue la France et quels seraient les remèdes de Bruno Le Maire? À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Apolline.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Ça faisait un petit bout de temps que je ne vous avais vu. Vous revenez avec ce livre, Le temps d'une décision. C'est aux éditions Gallimard. Vous avez évidemment été à la tête de Bercy pendant 7 ans. Et dans ce livre, il y a quelque chose d'assez douloureux qui est de voir que la décision politique, on y reviendra, vous apparaît de plus en plus difficile à prendre. Avec évidemment une question, dans ce cas, si c'est pas les politiques qui décident, qui décide de notre sort? Je vous poserai évidemment la question, mais j'ai regardé les chiffres ce matin. La situation, honnêtement, est très mauvaise. La dette, vous connaissez, on va y revenir. Ça vous colle à la peau, cette fameuse étiquette, l'homme aux 1000 milliards de dettes. Vous vous en défendez, vous nous le direz dans un instant. Mais ce matin, les taux d'intérêt auxquels la France emprunte sur les marchés passent au-dessus des 4%. C'est du jamais vu depuis 2009. Aux États-Unis, ces taux sont aussi au plus haut depuis 2007. Est-ce qu'on est dans une zone de danger?
On est face à un risque de choc économique et financier majeur dans les mois qui viennent. Si la crise dans le détroit d'Ormuz poursuit, cette envolée des taux est directement liée à l'augmentation des prix du pétrole qui est liée au blocage du détroit d'Ormuz. Donc soit il y a une solution diplomatique que je souhaite dans les semaines qui viennent et tout cela se dégonflera et s'apaisera. Soit à l'inverse, la crise se poursuit, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Cela provoquera à nouveau une augmentation des prix du pétrole, une augmentation des prix de l'alimentation, un risque de crise alimentaire aussi, puisque vous avez une augmentation très forte du prix des intrants, et à terme, de vraies difficultés économiques. Ça se traduit par une envolée des taux qui pèse évidemment sur la charge de la dette, ce qu'on a payé chaque année pour la charge de la dette.
Ça veut dire qu'on est dans une spirale ?
Ça veut dire que nous sommes face à un risque de choc économique et financier majeur. Mais je pense que tous nos compatriotes ont parfaitement conscience de ça. Au-delà de ce choc économique et financier possible, vous avez aujourd'hui un risque industriel, j'en parle beaucoup dans mon livre, en montrant les surcapacités chinoises, la détermination de la Chine à être le premier producteur industriel mondial, le premier producteur technologique. Si l'Europe ne réagit pas très rapidement pour protéger nos frontières, pour mettre en place des tarifs contre les biens industriels chinois, pour assumer une vraie préférence européenne, pas une préférence européenne qui est étendue au Canada et à tous les partenaires commerciaux de l'Europe.
Parce que c'est le cas aujourd'hui, il faut quand même le dire, il y a une logique totalement folle. Je recevais ce matin l'un des spécialistes de cette entreprise qui ne verra pas le jour à Fos-sur-Mer. Ça devait être 3000 emplois, une entreprise de panneaux solaires qui meurt notamment de ces décisions européennes de ne pas assumer un fabriqué en Europe, parce que le label fabriqué en Europe, il pourrait être donné par exemple à des panneaux solaires qui sont faits au Vietnam.
Mais
c'est totalement
révoltant. C'est totalement délirant.
Enfin, ce qui a été décidé par la Commission européenne, cette fausse préférence européenne qui est élargie à tous les partenaires commerciaux européens. Donc, c'est comme si la Chine ou les États-Unis disaient, nous on défend nos produits industriels chinois ou américains, mais comme on a un accord commercial avec l'Europe, l'Europe pourra en bénéficier. Mais jamais la Chine, jamais les États-Unis ne feraient ça. Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller, pour assumer une vraie préférence européenne, une vraie protection à nos frontières avec des tarifs douaniers?
Est-ce qu'il faut assumer le protectionnisme?
Bien sûr. Mais la personne que vous avez en face de vous, non seulement l'a assumé, mais l'a décidé. Nous avons été les premiers à obtenir qu'il y ait des tarifs douaniers qui soient mis en place pour compenser les subventions que la Chine a versées aux véhicules électriques chinois. Ces tarifs sont encore insuffisants, il faut les élever, il faut assumer une vraie préférence européenne réservée à l'Europe, au continent européen et aux entreprises européennes. Et il faut utiliser le levier des marchés publics pour privilégier la production européenne.
J'aimerais bien comprendre quand même, c'est-à-dire que l'Europe c'est devenu un frein?
Mais c'est pas un frein, c'est un de nos outils majeurs.
Ouais, enfin là, ce que vous êtes en train de décrire, c'est quand même une situation
ubuesque. Faut juste opérer une véritable révolution idéologique, pour comprendre que le modèle, et c'est là aussi ce que je défends dans le livre, le modèle sur lequel nous vivons depuis 1957, le libre-échange, l'ouverture de nos frontières, le doux commerce...
C'est fini.
C'est fini.
Mais c'est pas assumé. Et c'est d'ailleurs ce que vous dites.
Mais il faut l'assumer.
Vous dites, on est...
Et le rôle d'un responsable politique aujourd'hui, c'est pas d'être...
Vous racontez qu'on est un peu au milieu du guet.
Oui,
en fait, on
est au milieu
plus dans
du
le
guet.
Modèle d'avant, mais on n'a pas non plus assumé que les choses avaient changé.
Vous avez tout à
et donc,
fait
on
raison.
Est les dindons de la
c'est
farce.
La bonne expression. Et donc, vous êtes au milieu du guet. En général, vous êtes au milieu des courants et vous êtes ballotté de ci, de là. Le rôle d'un responsable politique aujourd'hui, plus que jamais, face à une inquiétude considérable de nos compatriotes, que je comprends, sur l'industrie, sur l'économie, sur l'emploi, c'est de se projeter à 25 ans et de se dire, est-ce qu'on peut réussir? Ma réponse est oui. Comment pouvons-nous réussir? En changeant de modèle et en refondant complètement le modèle économique français et le modèle économique européen. Et la refondation du modèle européen, c'est tout simplement assumer de jouer avec les mêmes règles que les Américains et les mêmes règles que les Chinois. On défend nos intérêts économiques bec et ongles avec de la protection, de la préférence européenne et des marchés publics qui sont réservés aux produits européens.
En priorité pour nous, Bruno Le Maire, demain, Sébastien Lecornu va tenir une conférence de presse avec notamment la question des aides ou non, vous le disiez. On va au-devant potentiellement d'un véritable choc économique. Il y a déjà une forme de choc pétrolier avec les prix à la pompe qui continuent à monter, qui sont repartis à la hausse. Est-ce qu'il faut aider ou est-ce qu'il faut taxer?
Taxer, c'est un mot que j'essaie de retirer de mon vocabulaire. Quand j'étais ministre des Finances, nous n'avons jamais augmenté les impôts. Nous avons garanti une stabilité fiscale qui est indispensable pour
oui,
les ménages
coup, vous avez creusé la dette.
Comme pour les entreprises.
Donc, pas vous n'avez creusé... pas non plus beaucoup baissé les dépenses.
On n'a sans doute pas suffisamment baissé les dépenses, mais nous avons garanti cette stabilité fiscale qui a donné quoi comme résultat pour une de Malherbe? 2,5 millions d'emplois créés, 120 000 emplois industriels, de la croissance, une attractivité financière qui faisait de nous le pays le plus attractif.
Mais comment vous expliquez alors qu'on soit reparti au-dessus des 8% de chômage?
Parce que nous avons changé de politique. C'est aussi simple que cela. Notre politique économique de 2017 à 2024, elle a marché. On peut tout contester, on peut critiquer ce qui a été fait sur les finances publiques, sur la dette. Il y a plein de choses qu'on peut critiquer, c'est la démocratie. Et la critique est toujours bonne à prendre. Mais ce que je crois profondément, c'est que la politique que nous avons engagée en matière économique en 2017, soutenir les entreprises, donner la visibilité fiscale, soutenir l'industrie, c'est-à-dire de la création de valeur sur notre territoire. Le bilan au bout de 5 ans, c'était de l'emploi, quasiment le plein emploi, des usines qui rouvraient, de nouvelles filières industrielles comme les batteries électriques à Dunkerque et une France qui faisait rêver tous les investisseurs. Ça a été abandonné, cette politique. On a augmenté l'impôt sur les sociétés, on a fait une surtaxe à l'IS, on a abandonné la baisse des impôts de production. Mais le résultat, il est inéluctable. Vous changez de politique, vous perdez vos résultats.
Il restera quoi? Il restera quoi du macronisme?
Ça, ce sera aux historiens de juger. Je suis acteur politique, je ne
vous
suis pas historien.
Vous l'êtes encore? Vous définiriez encore votre rôle aujourd'hui comme acteur politique?
Bien sûr, je suis un acteur de la vie publique. J'essaye de porter ce que peut être demain la France, l'Europe, ouvrir des perspectives, poser des débats pour que les prochaines échéances soient réussies. Si nous voulons que les prochaines échéances électorales soient réussies, il ne faut pas que cette prochaine élection présidentielle soit une élection par défaut. Le sujet, ce n'est pas d'ériger des digues contre les extrêmes. C'est d'ouvrir un chemin pour les Français. Ça doit pas être une élection contre. Ça doit être une élection pour. Ça doit pas être une élection par défaut. Ça doit être une élection d'ambition pour un peuple et pour un pays qui a tout pour réussir.
Vous avez dit d'ailleurs, Bruno Le Maire, que vous n'étiez pas candidat à la présidentielle, que c'était pas cette logique-là. Pourquoi vous avez écrit ce livre, du coup?
Pour dire aux Français, voilà où nous en sommes, voilà le monde dans lequel nous sommes. Je discute beaucoup avec mes enfants, j'ai 4 enfants. Parfois, ils me posent la question, mais c'est quoi le monde actuel? Pour le faire comprendre, j'ai voulu dans ce livre dire, regardez le monde actuel. Vous avez quelqu'un, il s'appelle Trump, il dirige les États-Unis d'Amérique. Voilà comment il est, voilà comment il négocie.
Vous racontez
vous avez
coulisses,
Xi Jinping, le président chinois. Vous voulez savoir comment il décide, vous voulez savoir comment il se comporte lors d'un G20, vous voulez savoir comment est-ce qu'il discute avec un président de la République. Ouvrez mon livre et regardez comment
vous
ça se décide.
Vous racontez plus Trump que Macron d'ailleurs. C'est quoi? C'est parce que vous vous dites, je veux pas tirer sur une ambulance?
Parce que les Français connaissent bien Emmanuel Macron, ils connaissent peut-être moins bien Donald Trump. Et j'ai eu l'occasion de discuter, d'échanger à plusieurs reprises avec lui. Je pense que c'est très important que les Français comprennent la dérive des États-Unis d'Amérique et à quel point il est devenu donc urgent maintenant de nous séparer des États-Unis d'Amérique.
Vous ménagez Emmanuel Macron. Pourtant, on s'en souvient, il y a eu des moments où pour vous, alors que vous estimiez que les choses allaient très mal, qu'il fallait par exemple revoir le budget, il ne vous a pas écouté. Est-ce que aujourd'hui, pourquoi vous le protégez?
J'entends beaucoup de critiques sur le président de la République. Il y a deux raisons qui font que je refuse de m'inscrire dans cette logique de critique systématique du président de la République. La première, elle est très simple. C'est que quand on a travaillé pendant 7 ans comme ministre des Finances avec un président de la République, la plus élémentaire des dignités, c'est de reconnaître ce qu'on lui doit. Bien sûr,
donc vous ne
ferez
pas partie de ces ingrats. On reproche beaucoup à Gabriel Attal.
Mais il y a une deuxième raison, vous savez.
J'en vois beaucoup
qui veulent tuer le père. Moi, j'ai une chance, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas mon père en politique. Je suis né en politique avant Emmanuel Macron, très précisément avec Jacques Chirac. Je me suis engagé en politique pour Jacques Chirac, avec Jacques Chirac, au moment de la crise en Irak en 2003. Donc, j'ai pas besoin de tuer le père. Mon père en politique, c'est Jacques Chirac, ce n'est pas Emmanuel Macron. Mais je le redis, il y a une question aussi de dignité. Vous avez servi pendant 7 ans.
Vous trouvez ça indigne, ceux qui aujourd'hui en font...
Mais chacun est libre. Comme dans un pays libre.
Mais pardon, vous soutiendrez...
Et rien n'est plus important pour moi que la liberté.
Vous allez vous engager,
mais
vous l'avez
ma liberté,
dit,
c'est d'éviter
politique.
Les critiques
vous
inutiles.
Vous soutiendrez qui?
Et je rajoute un argument qui est
Allez-y.
Important. À force d'accabler un homme, on ne voit pas que le véritable problème, c'est que le modèle français est devenu un anti-modèle. Ce modèle dans lequel la production est délaissée au profit de la consommation. Ce modèle dans lequel le travail est plus taxé que tout, ce qui décourage tous ceux qui travaillent, tous ceux qui ont un salaire. Ce modèle dans lequel on ne sait plus qui dirige quoi, où il y a une confusion complète des responsabilités. Ce modèle, il doit être transformé. Je le redis, il faut une refondation.
Je vous reposerai la question de savoir qui vous soutenez, mais quand vous dites on ne sait plus qui dirige quoi, on ne sait plus non plus, et c'est vraiment aussi le cœur de votre livre, qui décide et comment les décisions sont prises. Qui décide?
Qui décide? La réponse que j'apporte dans mon livre, elle est simple. Les régimes autoritaires, Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Poutine, les géants de la tech, qui ont une influence considérable, et là aussi, si l'Europe n'est pas capable de créer ses propres géants de la tech, ses propres semi-conducteurs, je travaille aujourd'hui pour une entreprise de semi-conducteurs, sa propre intelligence artificielle, ses propres stockages de données, de toute façon, nous serons une colonie numérique des États-Unis et de la Chine. Donc si nous voulons décider par nous-mêmes, il faut mener la bataille technologique. Écoutez ce qu'a dit Arthur Mensch,
le patron de Mistral.
À la Commission des Affaires économiques,
il
tout
a fait
dit
un constat désastreux sur la situation et les bâtons dans les roues qu'on met en France et en Europe.
Si je pouvais prendre maintenant mon rôle de conseiller de l'entreprise ASML, la plus grande entreprise de tech en Europe, pour laquelle je travaille depuis 2 ans, je reprendrais mot pour mot ce qu'a dit Arthur Mensch.
Dites-le.
Nous faisons tout pour torpiller les technologies européennes et françaises en étant incapables de mettre l'innovation avant la régulation, en ne prenant pas les risques nécessaires et en n'ayant pas le courage d'investir de la dette en commun. J'ai fait de la dette en commun pour protéger nos compatriotes face à la crise du Covid. Il est indispensable de faire de la dette en commun demain pour financer l'innovation, la lutte contre le changement climatique et la défense.
Mais avouez que c'est assez cocasse de l'entendre de votre part.
C'est pas cocasse, je l'ai fait.
Vous avez fait.
Non mais, Bruno de Malherbe, mais, c'est pas cocasse.
Mais les choix, mais je les choix fait fondamentaux, Bruno Le Maire, dans
mais
votre
le choix
vie,
fondamental
vous le dites, il faut
de
changer
la dette
de modèle, il faut changer d'organisation. Mais ça, vous l'avez pas fait.
Mais j'étais ministre des Finances, j'étais ni Premier ministre, ni Président de la République.
Oui, mais ça,
mon rôle
n'est
pas...
Bah non, mais moi, ça, c'était pas moi, c'était
mais
Macron.
J'assume toutes mes responsabilités sur la dette. Toutes mes responsabilités sur les choix économiques que nous avons faits et sur
entendu,
les résultats qu'ils ont donnés.
Vous avez entendu le constat de François Villeroy de Galhau. François Villeroy de Galhau, qui juste avant de quitter son poste de gouverneur de la Banque de France, dit, au fond, le drame aussi de notre pays, c'est que par exemple, on n'a jamais osé faire les vrais choix parce que c'est une gérontocratie, qu'on a choisi toujours de protéger les plus âgés, la retraite, qu'on n'a pas fait le choix d'innovation, qu'on n'a pas fait le choix des jeunes. Ça, vous étiez aux manettes là-dessus.
Mais nous avons fait des choix fondamentaux. Quand en 2017, on fait les choix fiscaux qui ont été les nôtres, baisser l'impôt sur les sociétés, faire une flat tax à 30%, baisser l'impôt sur les ménages, c'est des choix fondamentaux. Quand nous décidons de réformer l'assurance chômage, c'est un choix absolument fondamental. Quand nous relançons l'apprentissage,
il y a beaucoup qui a été détricoté là depuis
quand nous mettons en place le produit d'épargne retraite, c'est moi qui l'ai créé. 13 millions aujourd'hui de souscripteurs, 150 milliards d'économies qui ont été faites, c'est le début d'une retraite par capitalisation. C'est un choix que j'ai fait. Donc nous avons fait des choix fondamentaux. Est-ce qu'ils sont suffisants ? Non. Parce que maintenant, nous devons passer à une véritable refondation sur des bases qui soient plus saines de notre modèle éducatif, de santé, de production et économique.
Je mentionnais la Banque de France à l'instant. Un mot, parce que c'est aujourd'hui qu'Emmanuel Moulin devra convaincre aussi notamment les parlementaires de pouvoir devenir le futur gouverneur de la Banque de France. Dans votre livre, vous en parlez comme d'un ami. C'était l'ancien secrétaire général de l'Élysée, mais il a d'abord travaillé dans votre cabinet, Bruno Le Maire. Vous trouvez que c'est un bon choix ? Vous trouvez que c'est le bon moment ?
Je trouve que c'est un très bon choix. C'est le bon moment. De toute façon, il s'impose à nous, puisque le gouverneur actuel, François Villeroy de Galhau, à qui je rends hommage et qui a fait un super job, a décidé de servir dans le domaine social. C'est tout à son honneur. Il faut le remplacer.
Auprès des orphelins d'Auteuil.
Et Emmanuel Moulin est, à mes yeux, un homme qui a rempli toutes les conditions pour être un très bon gouverneur de la Banque de France.
Emmanuel Moulin à la Banque de France.
C'est les parlementaires qui le décident.
Oui. Enfin, il décide, il valide ou il valide pas.
Il décide quand même.
Ouais. Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, Emmanuel Moulin à la Banque de France. Vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas souhaité ou vous n'avez pas pu ou qu'est-ce que vous en pensez vous de cette idée de basculer à la tête de grandes institutions ? Vous n'auriez pas voulu vous ?
Non. Moi, je suis attaché plus que tout à ma liberté. Et je considère que quand vous avez servi à un moment donné, il est bon d'aller voir autre chose. J'ai démissionné de la haute fonction publique. Je dis dans mon livre qu'il faut mettre fin à la monarchie technocratique, c'est-à-dire tous ces gens qui pensent savoir mieux que personne ce qui est bon pour le pays, mais qui refusent d'écouter le peuple français. La refondation, c'est aussi une refondation politique, dont le principe de base sera d'écouter et de consulter les Français. Ça fait 20 ans, à peine de Malherbe.
Consulter les Français,
ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu un référendum en France. Et si nous avions des résultats extraordinaires, si nous
vous
avions le plein emploi, l'industrie carbone, mais je suis pour une pratique très régulière du référendum, au niveau national comme au niveau local, y compris avec l'initiative citoyenne, pour que le peuple puisse participer à la définition de son destin. La logique sur laquelle nous vivons depuis des décennies, où il y a des gens qui vous disent « je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous, je vais décider, je suis la raison et vous, vous êtes l'ignorance », c'est devenu insupportable et ça crée une fracture morale entre les dirigeants politiques et le peuple français. Le premier enjeu des années qui viennent va être de résorber cette fracture morale entre le peuple français et ses dirigeants politiques. Et pour moi, la seule façon de la résorber, c'est de redonner la parole au peuple, de les consulter. Parce que le peuple sait ce qui est bon, sait ce qui est nécessaire. Et il faut parier toujours, toujours sur son intelligence. Il faut beaucoup aimer les Français.
Vous voyez
et il faut leur faire beaucoup confiance.
Vous êtes finalement quand même assez optimiste. Certains disent que le deuxième tour, ce sera RN-LFI, les deux extrêmes. Est-ce que c'est le même péril ? Est-ce que vous imaginez ça, cette situation ?
Bon, je ne crois pas du tout. Ensuite, pour moi, il n'y a pas de moindre mal. Ce sont deux mots. Je rappelle qu'en 2024, quand il y a une élection législative, tout le monde s'est précipité pour dire il faut voter LFI contre le RN. Moi, j'ai refusé ce choix. J'ai dit, on ne fait pas le choix du moindre mal. Quand on aime profondément son pays, qu'on aime profondément les Français, ce qui est mon cas.
Les deux sont des périls à égalité.
Les deux sont des dangers. Donc j'ai refusé en 2024 et j'assume cette position politique d'avoir refusé d'appeler à voter pour la France insoumise. Car c'est un danger pour le pays, c'est le communautarisme, c'est la division et c'est un antisémitisme larvé qui est contraire à notre culture nationale. Mais j'ai la conviction profonde que si nous savons changer totalement nos pratiques politiques, refonder ce qu'est la démocratie française sur la base du peuple.
Vous l'avez dit, vous avez
commencé. Une simplification de l'organisation. Tout est possible.
Vous avez commencé, comme vous le dites, avec Jacques Chirac. Vous savez aussi que c'est une question d'incarnation. Qui vous soutiendrait ?
Et c'est beaucoup trop tôt pour savoir qui soutenir. Vous voyez bien que les idées sont même pas posées. Qui aujourd'hui défend, comme je le fais, une refondation complète de notre modèle politique ? Simplifier l'organisation, supprimer le département pour qu'il fusionne avec les régions, savoir qui fait quoi et qui est responsable de quoi, avoir un président qui préside et un premier ministre qui gouverne, avoir 10 ministres définis dans la constitution et pas un de plus, avoir un parlement qui pour 50% vote des lois
tout
et qui pour 50% contrôle, parce que ce que je constate, c'est qu'on a dit qu'on allait mettre fin à l'inflation normative. Mmh. Regardez les derniers chiffres qui sont tombés, il n'y a jamais eu autant de normes. Donc là aussi, consultons le peuple français. Prenons le code de la construction, le code de l'environnement, le code du travail. Simplifions-les en 6 mois et les nouveaux codes simplifiés, vous les soumettez à référendum des Français.
Ça fait un programme. Merci Bruno Le Maire d'avoir répondu à mes questions ce matin. Le temps d'une décision, votre récit et vos solutions, c'est chez Gallimard. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Bruno Le Maire était l'invité du Face à Face. Il est toujours avec nous. Rebonjour, monsieur le...
Oh là 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 là. Mais pauvres, mais quel bordel ce pays en ce moment. Heureusement que je me suis barré, madame de Malherbe. J'ai une chance. Quand je pense que je devais être ministre de la Défense du gouvernement Le Cornu, souvenez-vous, en temps de guerre. Et non, là, je suis peinard à vous parler de mon livre. Oh, quand même, le bol que j'ai eu. Vous avez lu mon livre? Ouvrez mon livre, madame de Malherbe. J'explique tout dedans, pourquoi que j'ai tout bien fait.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça.
J'explique Xi Jinping, j'explique Donald Trump. Oui, parce que moi, je suis de ce niveau-là.
Oui. Hein,
et en conseil économique, il y a même une super recette de cheesecake. J'explique tout, je vous
le dis. Oui, on le lit, on le lira. Sébastien Lecornu doit annoncer aujourd'hui des nouvelles aides sur le carburant. Qu'est-ce que vous feriez, vous ?
Qu'est-ce que je ferais ? Ben, je ferais des chèques. C'est dans mon livre.
Oui, ben c'est ça. Ben, c'est nos enfants qui vont payer.
Mais justement, mais vous avez vu les gamins d'aujourd'hui ? C'est des petits cons. Hein ? Ils sont mal polis, ils sont scotchés devant leur écran. Ils vous calculent même pas. Ils lèvent même pas la tête pour vous dire bonjour. Et nous, on s'emmerde à les élever. Mmh. Ils peuvent quand même rendre service. Hein ? Mmh. Ranger leur chambre,
oui.
Débarrasser la table, rembourser la dette. Merde.
Ouais, il y a quand même un inconvénient. Vous faisiez des chèques à tout le monde. Le résultat aujourd'hui, c'est que les caisses sont vides quand même.
Mais Apolline de Malherbe. Arrêtez sans arrêt de me parler des caisses vides. Moi, je suis venu vous parler de mon livre.
Oui, c'est bien compris.
Parce que mon truc à moi, c'est pas les chiffres, c'est les lettres.
Oui.
Okay. Donc, merci de faire la promo de mon livre, Le temps d'une décision. Je rappelle le titre chez Gallimard. Comme ça, pour une fois, c'est mon économie à moi qu'on va aider à relancer.
Oui, hein.
Et franchement,
ça.
Quand je vois la façon dont mon successeur, Roland Lescure, gère le business, il aurait besoin de le lire, mon livre, franchement.
Si vous savez ce qu'il faut faire, bah, pourquoi vous l'avez pas fait quand vous étiez ministre, je veux dire?
Écoutez, je vais être très franc avec vous.
Ah oui, allez-y, c'est le moment.
J'ai remarqué un truc. Mmh. Dès qu'on n'est plus ministre, on devient tout de suite beaucoup plus compétent.
Ah oui.
Plus inspiré dans le domaine dans lequel on était ministre. On écrit des livres sur le sujet, on enseigne, on devient consultant, limite le messie. Mmh. Mais je suis sûr que ça marche dans d'autres domaines, tenez. Dès que Habib Bey se sera fait virer de son poste d'entraîneur de l'OM, hein, après avoir pris tant de branlées instantanément, il va devenir meilleur technicien,
oui,
meilleur tacticien, et vous allez l'embaucher, ça se trouve, à Rotten sans flamme, hein, où il va donner des conseils à tout le monde, alors que c'est la plus grosse truffe de la Ligue 1. Et je précise que là, s'arrête la comparaison avec moi.
Bien sûr, merci Bruno Le Maire. Gérald Darmanin souhaitait également dire un petit mot à Bruno Le Maire.
Oui, tout à fait. Bonjour Madame Malherbe et bonjour à Bruno qui est un ami, on est important que ça dans la politique. Écoutez, j'arrive à l'instant d'Algérie et j'ai eu de très bonnes nouvelles.
Ah.
Christophe Glaize va être bientôt libéré. La mauvaise nouvelle, c'est que forcément, il y a de bonnes échanges et c'est Bruno Le Maire qui sera le bon échange.
Non.
Mais quelque part, c'est juste une très bonne nouvelle pour lui. Regardez l'impact de la détention en Algérie de Monsieur Boualem Sansal. Ça a complètement boosté les ventes du livre de Boualem Sansal.
Oui.
Hein,
oui.
Et force est de constater que Bruno est aujourd'hui un grand homme de lettres. Donc, voyez-moi, une petite année en incarcération en Algérie sera un bien meilleur tremplin pour sa carrière littéraire que de se lever à 6h du matin pour se farcir une interview avec vous.
Oh, bah, ça va, là, doucement.
Mais détendez-vous, Madame Malherbe. Ça va bien se passer. Oui, j'aime bien rejouer mes plus grandes répliques du cinéma.
Merci, monsieur Darmanin. Et tout de suite, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Et non, on ne retrouve pas ce cher Thibaut Texer. On retrouve Jean-Jacques. Oui, comme au bon vieux temps.
Oh, quel plaisir.
Pardon, je sais que vous me regrettez, Apolline. Pardon d'intervenir, mais vous avez vu Thomas Soto, qui est le grand Thomas Soto, qui est RTL. Et donc, je dis oui. Oui, j'accepte de prendre sa place. Vous savez que les auditeurs me manquent, mais surtout, je manque aux auditeurs. Mais sachez qu'il se passe pas. Eh oui, Laurent Neumann, il se passe pas une journée sans que quelqu'un me dise au volant de taxi ou accoudé au comptoir d'un PMU, Jean-Jacques, quand reviens-tu? Alors oui, j'ai 66 ans, mais j'assume, car justement, comparé aux auditeurs d'RTL, je suis un gamin. Allez, ce matin, c'est moi qui vous fais les titres.
Jean-Jacques, quel plaisir.
Festival de Cannes, polémique toujours, et oui, polémique toujours autour de Canal+, qui ne veut plus financer les films des signataires de la fameuse tribune. Et oui, à Cannes, 33 ans après le succès à Liste de Schindler, c'est une autre liste qui fait parler, la liste de Bolloré. Et puis football, et oui, parce qu'RMC, ce n'est pas qu'une radio de gonzesse, suivez mon regard. On ne parle pas que chiffon et maquillage. Et oui, à surprise générale, c'est Neymar, le grand Neymar, qui a été appelé par l'équipe du Brésil pour la Coupe du Monde. Et oui, la mode est au retour des anciens. C'est une tendance forte, j'espère que la direction d'RTL a bien eu l'info.
On leur dira.
Parce que faire des interviews sur réseaux sociaux pour 15 pelés qui regardent, c'est pas mon truc. À vous, Apolline.
Merci, Jean-Jacques. Allez, on parle de foot. Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Bonjour, Didier.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, ça y est, la liste est sortie. Kylian me l'a envoyée en temps et en heure, donc c'est bon.
Attendez, c'est Kylian Mbappé qui choisit les joueurs sélectionnés en équipe de France?
Comment ça? Ben oui, comme d'habitude depuis 4 ans.
Ah oui?
Oui, bon, on voit que vous ne suivez pas vraiment le foot. Hein,
oui, ça doit être ça.
Oui, c'est ça. En fait, au début, il ne m'a pas envoyé une liste complète. Il m'a juste envoyé un post-it avec juste son nom dessus.
Ah oui, ça
faisait pas. Bon, on a échangé un peu ensemble et j'ai réussi à faire comprendre à Kylian que le football est un sport collectif et que même si j'ai totalement confiance en son talent individuel, je pense que c'est préférable qu'il soit 11 sur le terrain plutôt que lui tout seul.
C'est cette décision, finalement.
Et bon, comme c'est un garçon intelligent, après plusieurs mois de discussion, il a compris et il m'a envoyé une deuxième liste.
Ah bah tiens,
vous avez reçu un
SMS, je crois.
Ah oui, non, c'est Kylian. Oui. Non, il me prévient qu'il a choisi Zidane pour me succéder.
Ah oui.
Oui, non, vraiment, ça fait plaisir de voir un joueur aussi impliqué dans l'avenir de l'équipe de France.
Ah tiens, encore un SMS.
Oui, c'est quand Lilian, pardon, dit Julie. Non, c'est rien. Oui, non, il veut juste que je lui prépare des pennés à la Arrabbiata pour ce soir. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir un joueur qui fait aussi attention à la diététique,
ah oui,
que ça fait du bien.
Oui. Encore, je crois, un SMS.
Ben oui, c'est encore lui, décidément. Attendez, je vais devoir vous laisser là parce que Kylian voudrait que je promène son chien. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir de voir un joueur comme ça qui se soucie autant du bien-être animal, ça fait plaisir.
Décidément.
Non, ça c'est rien, non, c'est Kylian encore.
Ah, oui.
Ah non, il m'envoie juste le sommaire des grandes gueules de M. Martin.
D'accord.
Franchement, ça fait tellement plaisir de voir un joueur qui s'intéresse comme ça autant aux sujets sociétaux de notre société avec une vision comme ça à 360. C'est Kylian qui me dit à 180 degrés.
Ah oui,
oui, parce que je me souvenais plus de la température.
Merci Nicolas, pas 58 tous les matins, 8h50, et le vrai programme des GG, Alain.
Oui, bonjour à tous. Déjà le retour d'une grande gueule historique, Johnny Blanc, chef d'entreprise, fromager dans les Deux-Sèvres, qui sera avec nous, avec Sandrine Pégan, l'avocate, avec Emmanuel Devilliers, le chef d'entreprise. La crise va durer, nous dit le ministre de l'économie, à la veille du dispositif d'aide du Premier ministre Sébastien Lecornu. Mais franchement, est-ce qu'on attend du gouvernement ou est-ce qu'on se démerde par nous-mêmes, nous les Français, face à la crise et les carburants? 32-16 pour venir en discuter avec les GG.